Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue au premier débat de ce festival 2019. Cette année, c'est une formule différente. Si vous étiez déjà venu les années précédentes, avant, on avait un chapiteau à l'extérieur qui était consacré essentiellement au débat. Mais cette année, Esperanza a regroupé ici à la fois le cinéma, les débats et certains spectacles. Et tout est lié à la thématique de ce festival qui est « Démasquons nos privilèges ». Et alors, ça s'appelle « L'espace tout va bien » parce que c'est le web média d'Esperanza. Juste avant, il y avait un film présenté par Tout va bien, puis il y aura d'autres films qui seront présentés pendant le festival, donc vous pouvez aussi les retrouver sur les réseaux sociaux. Alors la thématique « Démasquons nos privilèges », qu'est-ce que ça vous dit? On va commencer avec vous un peu qui êtes dans la salle. Quand vous entendez cette thématique, peut-être que vous avez déjà entendu les explications dans les médias ou par des gens du festival, mais vous pouvez les dire avec vos propres mots. Ça vous dit quoi? Démasquons nos privilèges. Comme ça, on casse le quatrième mur, là, cet espace entre eux et nous et vous. Qui se lance? Ouais. Alors, soit j'amène le micro, je vais amener le micro, comme ça, on s'entend tous et toutes.
Pour moi, démasquer ses privilèges, c'est se rendre compte justement de nos privilèges, parce qu'on évolue souvent dans des cercles où tout le monde a plus ou moins les mêmes avantages, donc on ne se rend pas compte de ceci. Et c'est en faisant ce genre de travail sur nous-mêmes qu'on se rend compte à quel point, quel type d'avantages on a dans la société. Et on voit plus souvent ce qui nous désavantage que ce qui nous avantage.
Chouette. Une autre personne ? Alors, effectivement, les privilèges, comme tu le dis, on en a parfois s'en rendre compte. Et le festival, cette année, dans cette thématique, a décidé de creuser trois privilèges, on va dire, dans les débats. Donc aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié aux classes sociales. En gros, les riches et les pauvres, de manière caricaturale. Puis, il y a demain, ce sera aussi au niveau des... plutôt tout ce qui est la domination des violences policières. Et puis, dimanche, ce sera tout ce qui est la question des genres et donc les luttes intersectionnelles. Et donc, pour aborder la question des classes sociales, on a trois invités aujourd'hui. Donc il y a Olivier Van Gothem qui travaille au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, Marie Gobert qui est militante des Gilets jaunes en Belgique, et excuse-moi, Sébastien Gotti qui travaille pour qui est même plus que travailleur, il est volontaire permanent, il nous dira ce que ça veut dire, pour ATD Carmonde. Donc on avait envie de réunir à la fois celles et ceux qu'on a plus vus dans l'actualité cette année-ci en France et en Belgique, les Gilets jaunes, et pour essayer d'aller au-delà de ce que nous renvoient les médias à ce sujet. Et puis deux associations qui travaillent depuis des années dans cette thématique de la pauvreté. Alors encore un petit truc pour commencer avant ce débat, c'est entre vous. En fait, on a expliqué le fait que les privilèges, parfois, on en a sans s'en rendre compte. Et donc, je vous propose, avec votre voisine ou votre voisin, de prendre 2-3 minutes pour essayer de retrouver, dans votre expérience récente ou plus lointaine, une situation où vous avez vécu soit une situation où vous étiez dominant, donc vous aviez un privilège et vous avez fait subir quelqu'un par rapport à ce privilège. Donc, par exemple, si on prend dans le thème d'aujourd'hui, voilà, par rapport à la pauvreté, vous vous êtes rendu compte que vous étiez plus riche que quelqu'un dans une certaine situation. Et dans l'autre sens, une situation, un vécu dans lequel vous avez subi cette situation de privilège. Donc, comme je dis, ça peut être la question de genre, de la couleur de peau, ça peut être l'origine sociale, ça peut être la religion, ça peut être différents domaines. Donc, je vous laisse 3-4 minutes entre vous, et puis vous aussi sur scène, si vous voulez entre vous en parler.
Parce que je suis un homme, probablement.
Radio Esperanza.
Alors, on va reprendre le fil de la conversation avec nos invités. Et je vous laisse peut-être continuer encore à la sortie des discussions entre vous sur cette question-là. Et donc peut-être d'abord vous présenter, et je leur ai proposé de se présenter plus de manière personnelle et pas par rapport à l'association ou le mouvement dans lequel ils sont, mais d'abord leur vécu par rapport à cette question. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la lutte des classes existe-t-elle encore ? Alors évidemment, comme dans les débats, on aime bien mettre des questions ouvertes. En même temps, la lutte des classes existe-t-elle encore ? Il y en a parmi nous peut-être pas beaucoup qui pensent qu'elle existe encore, non ? Ou l'inverse. Donc Olivier, est-ce que tu peux te présenter et par rapport alors à la lutte des classes, ce que tu as vécu par rapport à cette question-là et plus largement les questions de pauvreté.
Ok, je m'appelle Olivier et je suis depuis 2 ans facilitateur en prévention des inégalités au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et depuis 2010, je suis expert du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale. Alors, ça a des grands noms comme ça, mais ça veut juste dire qu'on a pris des gens qui avaient un vécu de pauvreté, on a regardé les stratégies qu'ils ont utilisées pour s'en sortir, pour essayer d'aider les personnes à pouvoir accéder à leurs droits dans l'administration et de changer les procédures dans l'administration et d'avoir un autre regard pour pouvoir mettre ces procédures en route. Un regard qui des personnes...
Viens mettre donc ton micro, excuse-moi.
Un regard des personnes qui subissent ces règles, en fait. Et comment elles les subissent et comment elles les perçoivent. Et comment elles peuvent y accéder. Voilà, ça c'est mon boulot. Mais mon parcours, moi j'ai un parcours de rue, j'ai été toxicomane, j'ai fait de la prison, je suis passé par toutes les cases possibles et inimaginables. Et je me sens privilégié quand même parce que je suis un homme blanc de 50 ans, hétéro. Donc pour moi, a priori, il n'y a pas trop de problèmes. Par contre, quand ça a commencé au début, ce n'était pas si évident que ça. Quoi, parce que je n'ai pas grandi dans une famille où on avait beaucoup de fric. À 12 ans, je commençais à gratter déjà pour essayer d'aider ma mère parce que mon père s'était barré. J'ai pas fait d'études parce que j'avais pas le temps. J'étais occupé ailleurs à essayer de gagner un peu de fric. Et donc, j'ai pas pu me taper l'université, par exemple. Chez nous, on pensait même pas à l'université. Quoi. C'est même pas concevable parce qu'on n'avait pas l'argent pour pouvoir y accéder. À l'époque, les aides pour entrer à l'université n'étaient pas celles qu'elles sont maintenant. Et même celles qui sont là maintenant ne sont pas évidentes. Je peux même parler d'un exemple qui est arrivé. Une femme qui s'est vue refuser sa bourse d'études pour son enfant parce qu'elle ne gagnait pas assez d'argent. Et ce n'était pas normal qu'elle ne gagne pas assez d'argent, donc c'est qu'elle se débrouillait autrement. Et donc, elle n'avait pas besoin de la bourse d'études. Hein, quelque chose d'assez fou. Donc, question privilège. Oui, j'en ai plein des privilèges. J'en ai déjà un fameux. Moi, aujourd'hui, je suis venu et on m'a offert ma place. Alors ça, c'est un putain de privilège par rapport à vous. Mais non, la lutte des classes, elle existe, et c'est pas moi qui en ai parlé le dernier, c'est Warren Buffett, qui est un milliardaire américain, qui a dit la lutte des classes existe et c'est la mienne qui est en train de la gagner. Et je pense qu'on est vraiment dans... Je parlais des privilèges ici, je suis un peu embêté, parce que le privilège, ça implique presque de se dire je n'ai pas à me plaindre, il y a pire que moi. Et la solution, c'est pas ça. Si moi, je vais me plaindre parce qu'il y a pire que moi. Et je veux que ceux qui soient moins privilégiés que moi aient les mêmes privilèges que moi. Je veux pas diminuer mes privilèges, mais je veux qu'ils aient les mêmes privilèges que moi. Et ne pas me dire, ouais, je vais pas me plaindre, je suis privilégié. Ça va pas. Ça, c'est laisser faire les choses. Puis un jour, ça avoue que ça arrive. Et vous avez plus ces privilèges-là. Et là, vous subissez une domination que vous pouvez même pas contrôler. Une domination voulue, hein, pour moi.
Et si tu veux bien, qu'est-ce qui a fait? Tu as dit que tu as vécu dans la rue. Qu'est-ce qui a fait que tu as été dans cette situation et qu'est-ce qui a fait que tu as pu en sortir ?
Le fait que je suis rentré dans la rue, c'est l'alcool et surtout l'héroïne. Surtout l'héroïne qui coûte très cher et donc et qui met dans un état où on ne peut plus rien faire. Donc à un moment, on est plus crédible envers les autres. Je vivais dans un petit village, enfin une petite ville de Gaume, où à partir du moment où on est un petit peu sur le côté, c'est foutu, on n'a plus le boulot, quoi. Ça vaut même plus la peine d'essayer. Et on s'enferme dans ce que Pierre Bourdieu appelle l'habitus. On est dans un système et on ne se rend même pas compte et on trouve ce système tout à fait normal. Et il faut en sortir justement pour s'apercevoir que ce n'est pas normal. Moi, je vivais dans un monde violent en permanence et je ne m'en apercevais pas de cette violence. C'était violent, c'était dans les mots. Nous, on trouvait que c'était violent à partir du moment où ça commençait à saigner un peu, quoi, hein. Quand le pif commençait à saigner, ça, c'était de la violence. Il y avait des coups échangés, mais les dialogues en permanence de violence... Et ils n'étaient pas perceptibles. Il a fallu que je sorte de ça pour m'en apercevoir. Et bon, moi, j'ai rencontré une personne qui m'a aidé à sortir de l'alcool. La drogue, j'avais déjà laissé tomber. Mais ça fait maintenant plus de 10 ans que je ne bois pas un verre. Et c'est ça qui m'a permis de remettre un peu les choses en place. En fait, j'ai des enfants, des petits-enfants, donc j'ai voulu un peu rattraper. Et un coup de cravache, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est vraiment pas évident. On me dit que j'ai eu beaucoup de courage et beaucoup de ténacité, et c'est vrai, il en faut parce que déjà ne pas boire ici en Belgique, quand je vois le prix d'un jus de fruits ici au festival et le prix d'une bière, ben t'as plus envie de boire une bière qu'un jus de fruits. 2,50 la bière, 3 euros le jus de fruits, t'as presque envie de boire. En Belgique, on trouve des bières, tu vas dans un magasin, on te file une Jupiler parce que c'est la coupe du monde de machin chose. Pas boire en Belgique, c'est pas facile, quoi. Donc il a fallu que je morte sur ma chic, et sinon je m'en sortais pas, quoi. C'est le fait d'arrêter de boire qui m'a permis d'enclencher encore d'autres trucs. Et quand t'arrêtes de boire, t'as intérêt à enclencher des choses, parce que si tu fais rien, tu t'emmerdes, et si tu t'emmerdes, tu picoles. Donc c'est tout un truc. Et puis après, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont donné envie de faire plein de trucs, et entre autres ce boulot qui m'a permis d'avoir du sens dans ce que trouver du travail, c'est pas le tout. Parce qu'on entend cette petite musique qui nous dit oui, le travail, on s'accomplit dans le travail. Le chirurgien de la main s'accomplit dans son travail. La bonne femme qui nettoie ses chiottes, je suis moins sûr qu'elle s'accomplisse dans son travail. Tu vois. Et le travail permet d'avoir du travail pour sortir de la pauvreté, c'est aussi un petit leurre, quoi. Hein, parce que généralement, les gens en pauvreté, quand ils trouvent du boulot, c'est pas un boulot qui paye réellement. Et en plus, ça leur coûte souvent plus cher parce qu'ils perdent certains droits. Et ils ont des frais supplémentaires pour pouvoir accéder à ce boulot. Donc, ce travail les appauvrit. Donc, il y a beaucoup de choses, quoi.
Tu as dit que tu avais été expert du vécu. Je ne connaissais pas avant qu'on se rende compte cette fonction. Donc, c'est au niveau de l'administration fédérale. Ouais. C'était de témoigner justement de ton expérience dans la rue pour essayer d'améliorer les politiques fédérales sur ces questions-là, c'est ça ?
Exactement. Donc, en 2005, l'État fédéral a décidé de prendre des personnes qui avaient un parcours de précarité, qui avaient trouvé des stratégies pour s'en sortir, qui avaient eu assez de recul sur tout leur passé pour pouvoir analyser tout ça et en faire un outil et plus juste une expérience, c'est-à-dire d'utiliser cet outil pour essayer de comprendre les mécanismes qui empêchent les gens d'accéder à leurs droits. Et les règles sont généralement faites par des privilégiés, hein, des hommes blancs d'une cinquantaine d'années, de classe supérieure, citadins. C'est eux qui font les règles, hein, des universitaires. Et ils sont bien gentils, mais ils loupent plein de choses. Il y a des regards qu'ils n'ont pas. Je prends souvent l'exemple de la loi sur le tri des déchets. Au départ, on peut penser que c'est une loi tout à fait respectable. Quand on habite une villa à quatre façades avec un carport, on peut mettre 3 poubelles dehors, hein, c'est pas trop dérangeant. Quand on habite dans 25 mètres carrés, on doit les mettre en dessous du lit, c'est tout à fait une autre démarche. Je prends cet exemple-là parce qu'il est parlant, il parle à tout le monde, mais c'est vraiment ça, comment est-ce qu'on fait pour accéder à certaines choses quand on est dans certaines situations. C'est pas une question de privilège, c'est une question de capacité. On n'a pas les capacités d'atteindre certains trucs, donc on n'arrive pas à avoir ses droits. Et on entend des autres musiques qui disent, ouais, ils veulent pas bouger, ils veulent pas. Non, quand on va à l'échec, quand on se retrouve face à des échecs en permanence, on a du mal à aller au front et se retrouver encore face à un échec et de se détruire à petit feu, parce que ça détruit tout doucement un homme, enfin un être humain, d'aller comme ça au combat pour. Et vous vous rendez compte qu'on est obligé de se battre pour des droits, se battre. Pour des droits. Pour moi, c'est un oxymore. Un droit, c'est un droit. Ou non, si on doit se battre pour ça, c'est plus un droit, quoi.
Merci. Ben, on vous passera. Donc,
mon boulot, ouais, je peux revenir à mon boulot. Mon boulot, c'est justement d'apporter cette lunette-là, quoi, à l'intérieur de l'administration. Et attention, si vous faites ça, voilà ce qui va se passer, ou là ce qui ne se passera pas. Hein. Et à l'intérieur, nous aussi, on constate les difficultés que les personnes rencontrent, et on remonte vers le politique. Enfin, on m'a toujours souvent posé la question, on m'a demandé si on m'écoutait. Je dis, je ne sais pas si on m'écoute, mais en tout cas, on m'entend. Ça, c'est sûr. Mais voilà, on essaie de remonter tant que faire se peut. Avec le réseau wallon, on a réussi à ce que la région wallonne et la fédération Wallonie-Bruxelles installent la fonction d'expert du vécu qu'on va appeler facilitateur en prévention des inégalités. Ça, c'est des noms qui ont été choisis par les administratifs. Il ne faut pas se casser la tête avec ça. Mais bon, la place existe, enfin va exister maintenant à partir du mois de septembre. On va commencer à travailler là-dessus. Et donc on va pouvoir essayer d'influer un petit peu sur les administrations wallonnes et la fédération Wallonie-Bruxelles.
Donc sera au sein des administrations.
Au sein des administrations, bien sûr. D'accord. Et même dans les niveaux de direction de l'administration. D'accord. On est chapeauté par la direction, en fait.
Ok. Alors, merci. Marie, tu es gilet jaune, hein, ça se voit. Mais peut-être d'abord donc ton expérience personnelle, si tu veux bien.
Moi je suis Marie, j'ai 40 ans, je suis maman de deux ados et c'est essentiellement pour eux que j'ai endossé un gilet. Je viens d'une famille papa maman ensemble, donc pas de divorce, donc relativement privilégié dans le schéma qui se profile maintenant. Par contre, papa travaille à la RTT, maman travaille en black et fait des ménages. Donc,
RTT, en fait,
c'est maintenant Proximus. Donc, petit salaire et on n'a jamais vraiment manqué de rien, mais on n'est jamais parti en vacances ou, enfin, voilà, vie modeste dans une cité sociale. Et j'ai côtoyé pas mal de jeunes issus de différentes cultures. Donc ça, c'était un grand plus pour moi. Ensuite, je me suis mariée. Et j'avais envie de revenir sur le fait, tout à l'heure, tu as dit les riches et les pauvres. Et c'est comme si c'était en contradiction. Et ce n'est pas du tout une contradiction parce que quelqu'un qui se dit riche ou qu'on pense riche peut très vite devenir pauvre suite à un accident de vie, peu importe lequel, un accident de voiture ou moi c'était un divorce. Et donc je me suis mariée, on avait pris la décision que je travaille à mi-temps pour pouvoir éduquer les enfants. Quand on a divorcé, je me suis retrouvée à mi-temps avec les enfants, avec un loyer et un boulot qui ne me permettait pas d'assumer tous les frais. Donc, par chance, j'avais une garde alternée. Donc, les enfants étaient bien une semaine avec leur père. Moi, pendant cette semaine-là, j'essayais de faire un peu des économies. Je mangeais au boulot parce qu'il y avait un repas qui était au boulot. Et j'essayais de mettre un maximum de côté pour pouvoir faire les courses pour la semaine où ils allaient revenir. Je ne chauffais pas la maison la semaine où ils n'étaient pas là. Enfin, c'était un peu la galère. À ce moment-là, on se rend compte que c'est dur parce que quand tu vas te présenter pour avoir une aide, moi je gagnais 20 euros de trop pour pouvoir bénéficier du fonds Mazout ou du fonds, il y a un statut spécial à la mutuelle. Tout ça juste parce que j'avais 20 euros de trop sur mon salaire, je ne pouvais pas les avoir. Quoi. Donc c'était une période vraiment dure, mais les enfants sont sortis quand même grandis de ça. Parce qu'ils connaissent la valeur de l'argent et ils savent qu'on n'a pas, ça tombe pas tout cuit dans le bec. Maintenant, je me rends compte, je suis remariée, je travaille à temps plein, forcément, il a fallu augmenter ses revenus. Je travaille de nuit, donc je suis relativement bien payée. Non, je suis pas relativement, je suis très bien payée. Et on est à deux pour supporter tous les frais, donc c'est beaucoup plus facile. Et je me rends compte de tous les privilèges que j'ai. Et je ne voudrais pas justement être une personne qui domine les autres parce que maintenant je m'en sors. Quoi. Donc je voudrais que... Moi, si j'ai mis maintenant un gilet jaune, on a initié les blocages des dépôts pétroliers au mois de novembre pour se dire qu'on ne peut plus tolérer que ce soit le citoyen qui paye tout ce qu'il y a à payer pour l'État. Et donc, on a eu marre qu'on vienne nous bouffer la laine sur le dos et on s'est dit, ben voilà, on fait quelque chose. Et moi, si je l'ai fait, c'est pour mes gosses. Parce que mon fils de 15 ans m'a dit, maman, pourquoi est-ce que tu veux que je bosse à l'école? Parce que de toute façon, je n'ai pas d'avenir dans ce monde. Et je me dis, mais moi, je ne veux pas être spectatrice d'une insurrection que j'espère très fort qui va arriver. Je veux, quand mes enfants me diront, mais maman, qu'est-ce que tu as fait? Et je veux leur dire, voilà, moi, je l'ai fait. En tout cas, j'ai essayé de faire quelque chose pour que vous vous en sortiez. Donc, après, dans mon parcours professionnel, je suis éducatrice. J'ai travaillé, donc je travaille essentiellement avec des personnes porteuses de handicap mental adulte. Et j'ai travaillé 2 ans en tant qu'éducatrice de rue. Donc j'ai pu côtoyer aussi pas mal de personnes en situation précaire. Et ça nous remet toujours face à nos privilèges. Même si dans certaines situations, je me dis, je suis une femme, je suis grosse. Et donc du coup, je dois en faire 2 fois plus pour que les gens ne s'arrêtent pas au physique que j'ai, pour qu'ils s'intéressent à ce que je dis. Et qu'on ne me dise pas... Enfin, c'est pas toujours évident d'être une femme dans ce monde. Et surtout si on rentre pas dans un canevas, dans un 38, quoi. Donc, ça, c'est un peu... Et après, y a mon parcours de militante qui, depuis début novembre...
C'était un peu... C'était pas les gilets jaunes que vous appeliez à ce moment-là?
Non, enfin, en fait, le groupe... en fait, on était un petit groupe de 4-5 personnes qui s'appelle Action citoyenne contre les mesures gouvernementales. Et on a réfléchi à comment on allait faire chier un maximum le gouvernement. Qu'est-ce qui pourrait faire que nos gouvernants nous écoutent? Et donc, pour ça, on s'est dit, il faut couper la source de vivre qui rentre. Et en même temps, quelque chose qui pouvait accrocher un maximum de monde. Et à la base, la première revendication qu'on avait, c'était une diminution des accises sur le carburant. Parce que ça, il n'y a pas. Tout le monde doit mettre de l'essence ou du diesel dans sa bagnole.
Et donc, c'était indépendamment de ce qui se passait en France dans votre discussion ou c'était parallèle?
En fait,
ou...
le gars qui a initié, qui a eu l'idée ici en Belgique, était en contact avec les Français. Mais les Français, à la base, étaient simplement partis sur des manifestations. Et nous, on s'est... Le gars qui s'appelle Antonio Quattrocchi, il a eu... pas mal d'années de syndicalisme et il s'est rendu compte que c'était pas en marchant qu'on allait obtenir quelque chose et qu'il fallait être plus radical. Et du coup, comme il avait un niveau d'expertise au niveau des dépôts pétroliers, il s'est dit, on va les bloquer et les bloquer tous. Et ça a marché. Et c'est ça le problème, c'est que on en a pas beaucoup parlé. Il y a quand même eu 850 stations qui ont été à sec. Moi, quand j'étais sur blocage, j'ai dû choisir entre où est-ce que je vais être bloqué, chez moi, parce que de temps en temps, on rentrait prendre une douche, ou sur le blocage, parce qu'il y avait les pompes qui commençaient à se vider. Et donc, ça a fonctionné. Et maintenant, il nous manquait 12 heures de blocage pour vraiment que ce soit efficace. Et puis bon, c'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu la casse à Feluy, où là, ça a été complètement indépendant de notre volonté. C'est des bandes organisées qui sont arrivées avec du matos, qui ont commencé à scier les panneaux, les poteaux d'éclairage, les arbres. Enfin, c'était une zone de guerre civile, quoi. Mais je comprends que des gens... Je ne dis pas que je cautionne, faut qu'on soit... Mais je comprends que des personnes qui ont marché, qui ont bloqué, qui n'ont pas eu de mots et qui ont tout essayé, on arrive à... On va tout péter. Si vous nous écoutez pas, on va tout péter. Et malheureusement, on nous écoute pas. Donc, on n'est pas à l'abri. Même si nous, en tant qu'organisateurs, j'aime pas le mot parce qu'il n'y a pas vraiment de leader. Mais quand on fait une action, on veut d'abord qu'elle soit pacifique. Mais on se rend bien compte que
Et peut-être une dernière question sur ton vécu. Tu disais tout à l'heure dans la préparation que donc maintenant tu travailles à temps plein, ton compagnon aussi, et donc tu as une situation financière meilleure, en tout cas qu'il y a quelques années. Mais qu'en même temps, tu as voulu rentrer dans les gilets jaunes, alors que l'image qu'on peut avoir peut-être habituellement, c'est que les gilets jaunes, c'est plutôt des personnes en situation de précarité ou avec des mauvais salaires, en tout cas des mauvais emplois et tout ça. Mais toi, tu disais que tu...
Ouais, moi, en fait, je ne le fais pas pour moi. Parce qu'effectivement, le fait de travailler nuit, on a une situation confortable maintenant qui me permet aussi justement de donner du temps pour ce mouvement, et moi je le fais par solidarité pour toutes les personnes qui ne peuvent pas le faire, et je voudrais vraiment que chacun puisse manger à sa faim tous les jours. Vraiment, moi, les inégalités, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Moi, je suis en colère contre le système parce qu'il n'y a que le profit. Et donc, si on remettait un petit peu l'humain au centre du système, et qu'on remettait la solidarité en place et qu'on revenait à des choses essentielles, il y a à manger pour tout le monde, il y a un logement pour tout le monde. Moi, je voudrais vraiment un système juste et qu'on n'ait plus à avoir des travailleurs en réseau de lutte ou comme à TD Quart-Monde. Ça ne devrait pas exister, en fait. Et donc, moi, j'ai mis un gilet jaune pour ça. Maintenant, j'ai dit à mon mari il y a 2 ans d'ici, je dis, moi, je veux changer le monde. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. En tout cas, j'essaye. Parce que je suis pas payée pour le faire, quoi. C'est pas mon travail. Donc, je prends sur mon temps de famille, professionnel, non, mais beaucoup sur le temps de famille. Et les enfants ont compris que je le faisais pour eux, quoi.
Merci. Alors, avant que Sébastien parle, Olivier, tu voulais réagir ?
Oui, je voulais juste... tu disais on pensait que dans les gilets jaunes c'était des personnes précaires, mais contrairement à ce qu'on peut croire, les personnes précaires n'ont pas le temps ni les moyens de se battre, d'abord parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on va manger ce soir et il faut trouver les moyens de subvenir à ses besoins du lendemain. Donc la lutte est souvent faite par des classes moyennes inférieures qui commencent à subir eux, ouais, la pression, et qui se disent oh là, ça va pas. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Les pressions mises sur les personnes qui travaillent sont tellement fortes qu'elles vont finir par craquer. Et la précarité, pour moi, le pauvre est utile. Le pauvre est utile à la société parce qu'elle permet de dire à celui qui travaille, si tu fais pas ce qu'on te demande, voilà où tu vas finir. Et c'est tout un jeu assez vicieux mené par un système qui ne demande qu'une seule chose, un marché de l'emploi. Donc c'est même pas du travail, c'est de l'emploi, c'est du marché, c'est de l'employabilité, de la flexibilité, et aucun sens, surtout aucun sens. Et les choses qui commencent à se passer maintenant, c'est que les gens commencent à comprendre. Moi, il faut lâcher le micro, mais juste dire un truc, arrête de dire les gouvernants, quoi. Arrête. Ce sont des représentants, ce ne sont pas des gouvernants. Ce sont des représentants et c'est nous qui ils nous représentent et c'est nous qui leur donnons un mandat. Alors si on leur donne un mandat, on peut leur enlever aussi. Et il serait temps qu'on prenne conscience que quand un ministre arrive, ce n'est pas un tapis rouge qu'on doit dérouler. C'est lui qui doit amener des cacahuètes pour venir nous voir.
Ok. Sébastien, alors qu'il n'a pas encore pu prendre la parole, peut-être soit si tu veux réagir ou d'abord si tu veux bien... te présenter et dire ton rapport personnel à cette question-là. Et puis, comme chacun a déjà parlé de son association, de son mouvement, de faire le lien avec ATD Quart-Monde.
Okay. Donc, moi, c'est Sébastien. Je trouve que à la fois Olivier et Marie ont dit des choses très, très justes. Je pense qu'on travaille dans le même sens. Alors moi, je suis super privilégié. J'ai des parents, enfin un papa électricien, une maman infirmière à domicile, qui ont des métiers stables, qui ont fait le même métier depuis toujours et qui on peut nous aider quand on était à l'école. J'ai fait des études. Et c'est vraiment ça qui, entre guillemets, m'intéresse et me pousse à me battre. C'est que j'ai rencontré plein de gens qui ont mon âge et qui ont connu des dizaines de galères dans leur vie, et comme disait Olivier, ben voilà, on va d'échec en échec et après on n'a plus envie de se battre. Et je me souviens d'une fois où j'avais été invité à ma première université populaire à ATD Quart-Monde en tant que bénévole, où je passais juste le micro dans la salle pour que les gens puissent réagir. Et en fait, il y avait des gens qui avaient juste envie de gueuler quand ils recevaient le micro, quoi. Ils n'avaient pas les mots pour exprimer l'injustice qu'ils vivaient en permanence, et donc ils n'en pouvaient plus. Et donc c'est ça que j'ai trouvé super intéressant dans ce que je vis aujourd'hui en tant que volontaire permanent à TD, c'est que je rencontre des gens qui en fait se rendent compte que ce qu'ils vivent, c'est pas de leur faute, parce qu'il y a des dizaines de personnes dans la salle qui vivent des choses plus ou moins pareilles ou pires qu'eux. Et donc ça les pousse à se battre, parce qu'ils se rendent compte que bah, si c'est pas juste moi qui galère, c'est pas de ma faute. S'il y a plein de gens qui vivent la même chose ou pire, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pas moi le responsable, c'est autre chose. Et donc c'est ça qui est super important pour moi. Et je pense que dans ce que Marie et Olivier ont dit, il y a un peu de ça.
Est-ce que tu veux bien présenter alors c'est quoi ATD Quart-Monde pour ceux et celles qui découvrent ?
Oui, alors ATD Quart-Monde, c'est une association qui est née en 57 dans un bidonville qui avait été installé par le mouvement Erasmus en 54. Et en 57, les habitants du bidonville, donc des gens en situation de pauvreté...
Emmaüs, non ? Erasmus ?
Ah oui, parce que j'ai dit Erasmus. Erasmus, bah, voilà. C'est Emmaüs. Emmaüs. Il a raison. Et donc, 3 ans plus tard, après l'installation de ce camp, les gens du camp, à peu près 2000 personnes, ils ont dit on va créer une assoce. Alors, la première assoce qu'ils ont créée, ça n'a pas été accepté parce qu'il y avait des gens qui avaient fait de la prison parmi les gens qui faisaient partie de l'assoce dès la création de l'association. Donc, il a fallu en créer une deuxième. Donc, voilà, ça a commencé en 56. En 57, l'assoce a été créée. Mais maintenant, c'est présent dans une trentaine de pays. Et en gros, enfin, c'est très vaste. Hein, on lutte contre la pauvreté, mais toujours dans cette idée que bah, dans la pauvreté, elle n'existe pas seulement dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays occidentaux, on va dire, riches, développés, entre guillemets. Parce que, en fait, ce que vivent les gens à la fois pauvres et exclus, peu importe le pays, c'est les mêmes situations, quoi. C'est des gens qui disent on n'est pas des chiens, enfin qui vivent du rejet en permanence, enfin voilà des situations en fait assez similaires. Il y a des différences, mais en termes de par exemple ben voilà des personnes pauvres dans d'autres pays, ben il y en a peut-être plus, mais des gens à la fois pauvres et exclus de la société qui en fait se retrouvent à vivre dans les bois ou sous des carcasses de bateaux en Tanzanie. Enfin il y a des gens qui vivent ça aussi, quoi. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un combat international avec des gens qui ont le même vécu tragique, dramatique. Voilà, en gros.
Et est-ce que, un petit mot, parce que aussi c'est une association qui a un fonctionnement particulier. Oui. Les personnes avec qui vous travaillez, c'est des militantes et militants. Oui. Vous êtes, disais, volontaire permanent. Oui. C'est aussi, je ne dis pas que vous faites vœu de pauvreté, mais quand même, quand vous travaillez, vous acceptez aussi de travailler avec des revenus inférieurs aux assos, je dirais, classiques aussi, non ?
Oui, donc moi, par exemple, ça dépend du pays, mais moi, en Belgique, je gagne 590 € par mois. Je décide...
À temps plein.
À temps plein, oui.
Donc c'est en dessous du minimum
Oui, alors il y a un petit truc, c'est qu'en fait l'assos me permet de me loger. Donc je suis logé et je dois vivre avec 590 € par mois. Alors c'est l'objectif, c'est que justement il n'y ait pas cette idée que les personnes avec lesquelles on travaille, qui sont des militants, on les appelle des militants parce que c'est des personnes, c'est eux qui se battent tous les jours contre la misère. Du coup, c'est eux les militants. C'est pour ça qu'on a décidé de, enfin qu'ils ont décidé de s'appeler comme ça. Et du coup, c'est aussi l'idée, ça change la relation en fait. Quand les gens avec lesquels on travaille, ils savent qu'on fait pas de l'argent sur leur dos, on travaille ensemble vraiment. Pour la même cause et on est vraiment égaux dans le travail qu'on fait, quoi.
Alors comme il est déjà 5h15, pour profiter quand même d'un échange entre la salle et vous, ils ont déjà lancé plein de pistes. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent réagir, témoigner, poser des questions ? C'est Hugo qui accepte de jouer le... Non ? Je le fais ?
Bonsoir. Moi, j'avais une question pour Marie. Je vois qu'il est mis citoyenne sur ton gilet jaune. Je me demandais, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, qui est beaucoup galvaudé, et quelle était ta signification de citoyen, parce que c'est un mot qui est beaucoup repris par les gilets jaunes, j'ai l'impression.
En fait, c'est simplement parce que tu vois pas l'action citoyenne, c'est le nom du groupe. Et le nom du groupe, c'est Action citoyenne contre les mesures gouvernementales. Et justement, quand tu parlais de gouvernement tout à l'heure, c'est vraiment contre les mesures qu'ils prennent qu'on est en colère. Enfin, moi, je suis une citoyenne parce que marre d'être catégorisée femme, homme, machin. Enfin, à la limite, je pourrais même mettre terrienne sur mon gilet parce que on respire tous le même air et on a droit à avoir tous les mêmes droits, en fait. Et donc, ouais, à la place de citoyenne, je pourrais mettre terrienne. Dans mon dos, j'ai femme en colère contre les mesures gouvernementales parce que j'assistais au moment où j'ai écrit dans mon gilet à une marche Amazon. Et je me suis dit, il faut que la parole des femmes soit un peu entendue, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Ouais. Bonjour. Alors en fait, moi, c'est plus des réactions que des questions. Et en fait, d'ailleurs, si j'ai participé à cette discussion, c'est parce qu'effectivement, j'ai vu le thème, la question qui était posée, et ça m'a fait en fait super peur. Ça m'a fait super peur qu'à Esperanza, on pose cette question-là. Et donc, évidemment, ça m'a fait encore plus peur d'entendre au départ le copain là qui dit oui, mais je pense qu'ici, on est tous et toutes convaincus, ou la plupart des gens sont convaincus que la lutte des classes n'existe plus. Moi, c'est un truc qui me fait vraiment flipper. Et parce que pour moi, évidemment, la lutte des classes, elle existe. Elle est loin d'être finie. Et comme l'a dit mon pote Olivier, il y a une lutte des classes qui est en train de se mener. On sait qui est en train de la gagner. Et donc, effectivement, poser la question, je trouve que c'est même carrément on n'est pas loin d'un discours de droite. Et donc, en plus, je pense qu'il faut nuancer. Ça veut dire que la lutte des classes, pour moi, elle ne dépend pas. Ce n'est pas aussi simple de se dire les riches contre les pauvres. D'ailleurs, pour moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a l'émergence d'une nouvelle classe sociale en Europe qu'on peut appeler le précariat. Le précariat qui n'est pas forcément des gens qui sont en grande pauvreté, mais on parle des intermittents du spectacle, par exemple, comme on parle des intérimaires, comme on parle des jeunes qui ont des contrats de précaires, non renouvelables et compagnie, les chômeurs, les chômeuses, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et donc, effectivement, donc, par exemple, on peut avoir... c'est pas parce qu'on gagne 2000 euros par mois qu'on est privilégié. Parce qu'on est privilégié, quel est notre privilège ? Notre privilège, c'est comme vous l'avez dit, Marie, vous avez le privilège de travailler de nuit et de gagner bien votre vie, de ce que vous dites. Mais bon, voilà, travailler de nuit, pour moi, ce n'est pas vraiment un privilège. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ça, c'est clair, mais c'est ce que je disais tout à l'heure à Thomas, hein, c'est que le privilège, ça dépend comment on le vit et on n'a pas forcément la façon de le ressentir. C'est vraiment personnel.
Tout à fait. Je suis super d'accord avec vous. Hein. Et donc, c'est l'idée de se dire qu'à un moment donné, la question du privilège, elle n'est pas non plus à aborder de manière individuelle, comme on a pu le faire au début. Moi, j'étais très mal à l'aise avec cette proposition de parler à son voisin et à sa voisine et dire quels sont les rapports de domination qu'on a et qu'on a reproduit. Je veux dire, si moi, aujourd'hui, Olivier le disait, homme blanc, hétérosexuel, si moi, je suis privilégié, déjà, de un, c'est pas un choix de ma part, c'est parce qu'on vit dans une société capitaliste qui favorise, évidemment, ce genre de choses-là. Et de deux, c'est pas parce que moi, demain, je suis quelqu'un qui fait partie de la classe privilégiée que je vais forcément dominer les autres. Et donc, c'est super important de pouvoir nuancer ça, parce qu'alors, évidemment, on arrive à se dire à un moment donné, ben alors, on ne va plus lutter ensemble. Parce que alors, on va te demander, avant d'être dans la rue ensemble, je vais te demander à toi, copain, c'est quoi ton salaire ? Tu gagnes 1200 euros par mois. Ah, moi, je gagne 1800, désolé, mais on n'est pas dans les mêmes privilèges. Alors, évidemment, c'est déroutant et de se dire que si, pour pouvoir abolir nos privilèges, on doit tous accepter de vivre, et tous et toutes accepter de vivre comme des pauvres, eh ben on fait le jeu du capitalisme. Quand monsieur dit, moi j'ai un salaire temps plein de 590 euros et c'est mon propre choix, je le respecte. Mais je veux dire, mais moi je me battrai toujours contre ce genre de choses-là. Parce qu'effectivement, il n'y a plus de dignité. Et vous le dites, vous avez l'air de bien vivre, je comprends. Mais je comprends aussi qu'à un moment donné, si on ne se bat pas contre ce genre de choses-là, et si nous-mêmes on reproduit des choses comme ça au sein de nos propres organisations. J'ai travaillé dans une ASBL qui était internationale et on avait des gens d'Indonésie qui disaient « Ah ben nous, pour essayer de faire un peu d'économie, on va supprimer nos assurances maladie. » Alors c'est facile pour nous les Belges de dire ah oui, waouh, c'est incroyable, mais je veux dire, mais merde, putain, c'est pas, l'objectif, il n'est pas ça, c'est exactement faire le jeu du capitalisme. Et je terminerai juste là-dessus, c'est que. J'ai mis tellement de notes à la con là. Je me perds, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, voilà, je me perds et je laisse ces réflexions-là ouvertes au reste de la salle.
Je propose peut-être, Sébastien, de, entre guillemets, réagir par rapport à cette idée que vous participez d'une certaine manière au système.
Alors, en soi, 590 euros plus le logement, c'est le salaire minimum. Hein, donc, et puis moi, j'ai un logement, donc je ne serai jamais à la rue. Donc, je suis privilégié d'une certaine manière par rapport à plein de gens. Et puis, il y a d'autres systèmes, entre guillemets, qui nous permettent, par solidarité entre nous, parce qu'il y a 450 volontaires comme moi dans 30 pays aujourd'hui qui travaillent pour ATD Quart Monde. Et il y a de la solidarité entre nous. On met de l'argent de côté. Enfin, en Belgique, vous avez des barèmes. Donc moi, je mets, entre guillemets, 1 000 euros de côté par mois. Et ça va dans une caisse qui est une caisse de solidarité. Donc il y a plein de systèmes, entre guillemets, qui me fera jamais dire que moi, je suis... 590 euros par mois, c'est vraiment ce que je reçois tout par mois sur mon compte. Mais ça veut rien dire. Je dois rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est juste pour donner plus de détails.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir dans la salle ? Ah oui, peut-être après, hein, comme ça on continue. Il ne reste pas beaucoup. Madame.
En fait, moi c'est juste pour un peu témoigner. Enfin, je me sens personnellement un peu transclasse, c'est-à-dire que j'ai grandi dans un milieu extrêmement pauvre à Liège. On faisait partie de ce qu'on appelle les baraquis de Liège. Hein. Et donc. Et donc, le truc, en fait, c'est que...
Les baraquis, c'est pour... Ça
c'était moi, dire. C'était nous. C'était des gens très pauvres, avec très peu d'éducation, etc.
Maintenant, c'est les gilets jaunes, les baraquis.
Ouais. Et en fait, donc j'ai eu un bébé à 16 ans, ce qui n'aidait pas, en fait. Et donc, j'ai vécu beaucoup de discrimination et beaucoup de jugement. Et puis, avec beaucoup de ténacité, hein, enfin, je me suis pas mal reconnue dans ce que tu disais, ben, je suis retournée à l'école, à l'université, etc. Et maintenant, j'ai un excellent travail. Donc, je suis aussi hyper privilégiée. Et ce qui me tue, en fait, j'hallucine de la cécité, en fait, des gens dans mon milieu actuel, disons, quand je suis au travail ou même des gens que je fréquente, qui n'ont absolument pas conscience de leurs privilèges. Et quand moi, j'essaye d'un peu de leur dire... alors, on me traite de féministe hystérique ou de marxiste hystérique, enfin, de plein de choses hystériques, en fait. Et donc, justement, je me demande comment on peut... faire passer ce message, c'est faire prendre conscience aux gens de leurs privilèges, en fait.
Est-ce que vous voulez, Olivier, vas-y.
Pour aller travailler, je prends le train tous les matins pour aller de Liège à Namur. Et quand je suis assis dans le train, que j'entends une conversation qui me dérange un peu, où on commence à rentrer dans des considérations un petit peu dérangeantes, j'y vais, je prends la parole et je parle. Quand je suis au bar et que j'entends des propos racistes, je m'impose. Quand je vois un message sur Facebook qui me dérange, je le tacle. J'essaye à tous les endroits possibles et inimaginables, tous les jours qui sont faits, d'essayer d'influer un discours un peu différent du discours dominant. Et... moi, j'en ai marre d'entendre parler des profiteurs. Il y a des profiteurs et ce ne sont pas ceux qu'on pense. Quelqu'un qui fait du profit, c'est un banquier, par exemple. Il fait du profit, donc un banquier est un profiteur. Oui. Mais quelqu'un qui rame pour essayer de gratter 2 euros parce que depuis le 10 du mois, il n'a plus un bal et qui va faire un peu de blague ou qui ne va pas déclarer qu'il habite avec sa copine, ce n'est pas un profiteur pour moi. C'est juste quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide et... C'est quand même un peu bizarre. On veut pas donner d'argent aux gens, quoi. C'est fou. Même dans un système comme le nôtre, ils vont pas aller le dépenser au Panama, quoi. Sauf si le bistrot s'appelle le Panama, ils vont aller là. C'est du circuit court, l'argent à dépenser direct. Je fais du combat pour les mendiants à Namur. On a été voir les commerçants, on leur a dit, mais est-ce que vous seriez d'accord d'adosser un autocollant sur votre vitrine en disant que vous acceptez les mendiants devant votre magasin? Et oui, ils râlent et tout un peu. Et puis moi, je leur dis, mais écoutez, s'ils ont de l'argent, ils viendront le dépenser chez vous. S'ils n'en ont pas, ils viendront voler chez vous. Alors c'est à vous à choisir, c'est pas compliqué. Donc le combat, c'est partout et tout le temps. Et comme tu disais, je veux changer le monde. Et Gandhi disait, ben, soit le changement que tu veux pour ce monde.
Une question à Marie. Tu es au milieu de deux personnes qui sont dans des associations différentes, mais quand même des associations qui existent depuis plusieurs années. Je crois que c'est presque 25 ans au niveau du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Toi, 57 en tout cas en France. Et vous êtes rémunéré dans votre assos. Et les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est non structuré. C'est une volonté de base et je pense que c'est quelque chose qui continue. Et donc, je me demandais quelles étaient les relations entre les Gilets jaunes et ces associations qui sont structurées, qui sont entre guillemets, qui doivent faire le job depuis 25 ans, en tout cas dans ce domaine. Et est-ce qu'il y a de la colère, de la rancœur? Est-ce qu'il y a du dialogue entre ces assos subventionnées, structurées et ces citoyens, ces personnes, ces terriens, comme tu les as dit, ces terriennes, comme tu l'as
fait,
dit
On commence... En fait, les Gilets jaunes sont tout nouveaux dans la lutte. Donc, maintenant que le monde commence à se dire ouais, ben finalement ils sont peut-être pas si débiles que ça, on va peut-être pouvoir discuter avec eux, donc les ponts sont tout doucement en train de se faire. Et j'entendais Sébastien qui m'interpellait tout à l'heure en disant oui mais comment est-ce que il dit dans la population que je côtoie il dit il y a des gens, ils disent c'est pas pour moi parce que je sais pas lire ou pour un tas de raisons, et d'autres qui disent c'est super. En fait, Le combat qu'on est en train de mener, c'est dans la rue. Et moi, je suis intimement convaincue que c'est de là que ça doit partir, parce que quand on est dans la rue, on est ensemble, en fait. Même si on n'a pas le même mode de fonctionnement, on a une même volonté de changer quelque chose de commun. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut échanger. Alors maintenant, on n'a pas vraiment de réunion formelle où on rencontre les représentants des associations, mais je pense que chaque gilet jaune a un peu une fibre comme ça avec qui il a plus d'affinité ou pas. Et l'idée, c'est de remettre un peu... quand on se retrouve autour d'un verre, parce qu'on n'a pas de structure, on se reçoit les uns chez les autres, celui qui... Il y a énormément de solidarité aussi au niveau des Gilets jaunes. Ben, on dit, ben voilà, moi j'ai rencontré un tel, il serait OK pour venir donner un coup de main pour ci, pour ça. On est vraiment en train, pour l'instant, d'essayer de construire un mouvement. Et moi, je suis en tout cas personnellement avide d'apprendre et de savoir, parce que forcément, des associations font depuis 20 ans. On a tout à apprendre. Mais avec notre souffle nouveau, on peut aussi apporter quelque chose. Je pense qu'on est complémentaires.
Okay. Olivier, tu voulais réagir ?
Avec le réseau Wallon, on a été rencontrer les gilets jaunes de Jambes, si je me souviens bien, ou de Marche, je ne sais plus exactement de quel rond-point ils étaient. Et je viens de marcher pendant 10 jours avec des migrants entre Liège et Chigny, en Gaume. L'idée, c'est pas faire une convergence de lutte, c'est faire une extension des luttes. C'est dans notre propre core business, comme on peut appeler ça, on doit s'élargir pour aller rencontrer les autres. Donc les migrants, pour nous, c'est la pauvreté en Belgique, mais c'est la même cause, que ce soit les migrants ou la pauvreté en Belgique, la cause est la même. C'est un système capitaliste qui fout tout en l'air. Et donc, on a des points de rencontre. Et c'est en faisant des extensions de lutte qu'on finira, je pense, par se retrouver tous et à s'apercevoir que la cause est la même, la cause de nos problèmes est la même, quoi.
En fait, moi, je suis assez imagée et je vois le système comme dans le jeu Mario Bros, où il y a le gros méchant qu'il faut tuer. Et avec plein de sortes d'attaques. Et donc, si je me dis que si tous les réseaux qui luttent commence à bombarder le système, finira bien par s'écrouler à un moment. Il y a pas, de toute façon, on est au bout de ce système. Et ça, les gens commencent vraiment à le sentir.
L'avantage dans Mario, c'est qu'on identifie le gros méchant. Et là, on n'arrive pas à l'identifier. La difficulté que la Belgique a pour faire que ces gilets jaunes prennent vraiment forme, c'est qu'en France, ils ont Macron comme ennemi. Et en Belgique, quand on a commencé les gilets jaunes, l'autre, il a démissionné, il s'est barré en courant. Charles Michel a démissionné. Donc, il n'y avait plus de cible. Et c'est très difficile de se battre contre quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que qu'ils ont difficile avec les gilets jaunes, c'est parce qu'il n'y a pas de chauffe, c'est liquide, c'est imprenable, on ne sait pas l'attraper. Pour moi,
c'est la force. Hein.
Oui, pour moi, c'est la force des gilets jaunes.
Parce qu'après, tu as une tête qui sort et puis hop, tu la coupes, voilà, c'est lui qui prend tout. Là, il n'y a pas de tête qui sort.
En France, les cadres qui se sont mis un peu en avant se sont fait ramasser. Joanne Branco, qui défend les gilets jaunes en France, s'est fait interroger par la police. Non, mais c'est qu'ils commencent à flipper sérieusement s'ils en arrivent là. C'est qu'on touche des points sensibles. Et ici, en Belgique, il n'y a pas cet ennemi. Il n'y a pas le gros méchant du Mario Bros. Et ça, c'est toute une difficulté aussi pour un combat.
Je pense que l'enjeu pour convaincre des gens qui, a priori, ne sont pas sensibles à notre discours, c'est de changer le regard de ces personnes sur les pauvres et la pauvreté. Et ça commence dans le discours, dans la presse, etc. Enfin, je pense pas dire de bêtises si en fait les chômeurs, les familles monoparentales, les personnes locataires, elles ont beau dos aujourd'hui, on dit plein de choses, plein de bêtises dans la presse à leur propos, et en fait c'est de la merde, hein, pour le dire platement. Enfin, c'est une espèce de montagne russe. Enfin, il y a 15 ans c'était peut-être un peu mieux, maintenant on est vraiment au fond du gouffre, et on espère que ça va s'améliorer, mais en fait c'est vraiment se battre contre ce discours là qu'on a dans la presse. C'est, en fait, les gens commencent à se convaincre de bêtises, et il suffit qu'ils rencontrent des personnes qui vivent la pauvreté pour se rendre compte qu'en fait c'est des conneries. Et c'est vraiment ça l'enjeu, je pense. Et en plus, enfin, moi, on a un groupe local qui a invité un journaliste qui avait dit des conneries sur ce qu'on appelle un habitat permanent dans la campagne, donc des gens qui vivent dans un camping qui était censé être pour des touristes. Et comme les loyers sont pas chers, ben, y a des personnes qui sont exclues de plein d'autres villes qui terminent là-bas dans des chalets qui sont pas chauffés, pas d'électricité. C'est le dernier recours, quoi. Et ces personnes, parce que justement ce journaliste avait dit du mal de leur quartier, leur lieu de vie, bah, ils ont réfléchi pendant 3 mois en disant, qu'est-ce qu'on lui dit? Ils ont invité ce journaliste, et depuis, ce type-là, c'est un allié du groupe, quoi. Il fait des beaux articles, et récemment, enfin l'année dernière, il a fait les 2 premiers articles de mémoire d'homme où on a dit du bien du quartier, quoi. C'est une personne à la fois, mais quand ça arrive, les gens qui sont à l'origine de ce changement, bah, elles sont ravies. Et je pense que ça fait effet boule de neige en plus. Si ATD Quart-Monde, c'est pas seulement une ONG, mais aussi un mouvement international, c'est parce que il y a de plus en plus de gens. Une personne en convainc deux, puis cette personne. Enfin, et c'est un combat permanent. Enfin, je pense qu'on n'arrête pas de le dire, mais il y a des hauts et des bas, mais on continue à se battre, quoi.
Est-ce qu'il y a encore une personne dans la salle qui souhaite réagir? Comme on arrive tout doucement à la fin, c'est le moment, c'est l'instant. Oui, Hugo t'amène le micro.
Vraiment, ma question, c'est parce que je suis étudiante en droit et j'aimerais bien plus tard faire quelque chose dans votre sens en ayant les bases juridiques. Et bon, je suis qu'en bac 1, donc je n'ai pas encore tous les mécanismes. Mais qu'est-ce que, d'après vous, on pourrait faire juridiquement parlant pour aider la cause? Si c'est pas trop
La cause pour toi, c'est de lutter contre la pauvreté en général, ou...
Enfin, la pauvreté, mais aussi tout ce qui est convergence, donc que ce soit féminisme, climat,
En ce qui nous concerne à ATD, environ 3 ou 4 fois par an, on essaye de casser des règlements communaux qui veulent soit gérer la pauvreté sur leur territoire, donc en disant aux personnes qui m'ont dit bah, vous faites ça 2 heures à tel endroit, puis le lendemain 2 heures à tel autre endroit, c'est illégal. Depuis 1994, la mendicité, c'est plus un délit. Donc les gens, la mendicité, c'est pas un délit. Donc les gens, qui veulent mendier, ils peuvent le faire, et c'est pas aux communes de dire si tu mendies et pas au bon endroit, on va te mettre 12 euros cachot, on va te prendre ce que tu as récolté. C'est déjà arrivé à Liège, ça arrive à Tournai, ça arrive à Namur. On se bat contre ça, et on a besoin de juristes, on a besoin aussi de personnes. Si vous autant que vous êtes ici dans la salle, si vous entendez des choses pareilles là où vous vivez, c'est illégal, il faut prévenir vos associations, que ce soit n'importe qui ici ou d'autres associations. Il y a des gens qui font des choses très bien. Il faut prévenir ces gens parce que c'est illégal, et c'est les mauvaises personnes, quoi. C'est les personnes qui sont déjà dans la merde qu'on va encore plus mettre dans la merde. Donc c'est complètement bref.
Nous, ce qui pourrait aider, c'est une antenne d'information justement sur les droits quel qu'il soit, de ce que de, parce que il y a toujours cette crainte du policier, parce qu'on a vraiment ramassé sur notre gueule pour être vulgaire, et donc on, face à cette répression, beaucoup se sont effacés et ont oublié qu'ils avaient des droits. Et je pense qu'avoir des antennes avec un juriste qui te dit oui mais non mais ça t'as le droit de faire et eux n'ont pas le droit de faire ça, ça pourrait rassurer les militants qui sont en première ligne en fait.
Donc c'est par rapport à la police.
Par rapport à ben, que ce soit la police ou peu importe, mais d'avoir, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Quand on voit les briques de loi, je suis désolée mais à chacun son job. S'il faut 5 ans d'études pour être juriste, c'est pas pour rien, quoi. Donc si vulgariser, par exemple, les droits, un petit manifeste, ça existe peut-être, hein, mais que ce soit accessible, en fait.
Olivier, puis on...
Mais non, moi, j'attaque pas sur la justice, sinon on n'arrête pas, on en a pour 3 heures. Quoi, hein. Moi, j'ai été condamné à 1 an de prison pour capable du fait... Je me suis fait arrêter en 2010 après le camp des indignés pour suspicion en trouble à l'ordre public. Alors moi, la justice, quand j'entends des groupements, enfin des partis politiques comme la NVA qui disent que les pauvres utilisent beaucoup trop la justice et qu'on va devoir faire payer les prodéos, ça a été débouté en cour constitutionnelle avec le réseau Wallon et la plateforme, on a porter plainte à la Cour constitutionnelle contre cette règle qui voulait faire payer les prodéos, c'est encore des freins supplémentaires à l'accès à la justice. Pour les personnes les plus pauvres, la justice est déjà mal vue, parce que généralement, elle est agressante, elle n'est pas là pour aider. On ne va pas en justice pour se faire valoir ses droits par rapport à un proprio, parce qu'on sait bien que le proprio, il va nous avoir... Enfin, on ne pense même pas y aller, parce que la justice, c'est vraiment... Le regard qu'on a envers la justice, qu'on est plus précaire, c'est celle qui va nous attaquer, c'est celle qui va nous en enlever nos gosses. Comme Christine Bailly, la secrétaire générale du réseau, dit, quand t'es pauvre, si le SAJ vient chez toi, t'as intérêt à avoir le frigo plein, et si le CPS vient le lendemain, t'as intérêt à avoir le frigo vide. Ces incohérences, ces incompréhensions, pour moi, je crois que le plus gros travail qu'on peut faire quand on est militant et qu'on fait des études de droit, c'est à l'intérieur même de la justice qu'il faut faire, essayer de conscientiser sur les problématiques. Alors, ce que je te conseille, c'est aller dans les assos qui ont besoin de juristes pour comprendre la situation et comprendre ce que les gens vivent, pour pouvoir aller après, à l'intérieur des barreaux, ou à l'intérieur des tribunaux, ou à l'intérieur des endroits où les cafés, juste à côté des tribunaux, où les juges et les avocats se rencontrent pour boire un coup, essayer d'influer à l'intérieur de ça. C'est... faut essayer de casser les murs qui nous cachent les uns des autres. Les mondes sont les mêmes, on vit les mêmes angoisses, qu'on soit riche ou pauvre, on a la peur de mourir, on a la peur de perdre ses enfants, mais on est dans des niveaux différents. Et je pense que le jour où on arrivera à se remettre tous à même niveau, on pourra comprendre que l'humain est tout à fait à la même égalité. Il n'y a pas d'humain supérieur ni d'humain inférieur. On est tous les mêmes. Et donc c'est à chacun à l'intérieur de nos groupes qu'on doit travailler, quoi, surtout.
Et on a besoin de juristes, tu l'as dit, dans vos associations.
Bien sûr, et ça c'est un cadeau sans prix pour avoir un juriste qui puisse éclairer les gens sur leurs droits et même à l'intérieur des assos, ça n'a pas de prix. Et ça permet aux jeunes juristes de comprendre pas mal de choses et d'avoir une vision déjà un peu différente sur comment pratiquer son métier, enfin je pense. Parce que la justice c'est quand même un contre-pouvoir. Mais à partir du moment où le contre-pouvoir mange à la même cantine que le pouvoir, ça commence à devenir difficile d'être un contre-pouvoir.
Quelqu'un voulait... j'ai interrompu quelqu'un qui voulait réagir ou pas ? Non. On arrive tout doucement au terme de la discussion. Vous pourrez la continuer parce que donc Sébastien est juste à l'extérieur. Vous avez peut-être déjà vu le stand d'AT des Quart-Monde, à la fois avec des militantes et des volontaires permanents. Et puis Marie, il y a aussi un stand dans le village des possibles. Il y a plein de gilets jaunes dans le stand, donc vous ne pouvez pas les rater. Et puis Olivier, il a reçu le passe 3 jours, donc il sera là les 3 jours. Il pourra continuer. Voilà. Et alors, pour conclure, ben, pour répondre à l'interpellation du copain, ben, c'est vrai que pour déterminer des titres de débat, il faut toujours essayer de trouver quelque chose d'accrocheur. Et moi, ce qui m'a interpellé dans la question qu'on a creusée aujourd'hui, c'est en fait, il y a une revue qui s'appelle Wilfried, qui est un peu une espèce de revue qui interviewe les politiques, mais justement dans le sens du poil, et a interviewé Alda Gréoli, qui est toujours ministre, notamment en région wallonne, de l'action sociale. Et elle disait, c'était l'accroche de son interview, elle disait la lutte des classes n'existe pas, n'existe plus. Et donc ça m'avait bien choqué. Et donc voilà, c'était... Voilà, voilà, donc ça c'est gagné. Mais quand tu vois les intervenants en même temps, voilà, on n'a pas invité de contrepartie.
Les exploités n'existent plus non plus. Hein. Il n'y a plus d'exploités. On appelle ça des défavorisés. Défavorisés, c'est la faute à pas de chance. Exploités, c'est la faute à l'exploiteur. Donc on efface l'exploiteur en changeant le mot. Quand elle dit qu'il n'y a plus de lutte des classes, ça efface la lutte des classes, mais la lutte des classes est toujours existence, on enlève juste le nom. Faut faire gaffe. J'ai été avec ma fille à Votem, elle me dit « Papa, pourquoi on enferme des enfants en prison ? Viens, on va aller voir le policier. » On lui a demandé au policier, j'ai dit « Ma fille n'ose pas vous poser la question, mais elle voudrait savoir pourquoi il y a des enfants en prison. » Il m'a dit « C'est pas une prison, c'est un centre fermé. » Moi, je lui ai dit « Ma fille, tu peux faire un gâteau au chocolat et appeler ça une forêt noire, ça restera un gâteau au chocolat. »
Tout à fait, l'importance des mots. Oui, voilà. Et alors, sur ce thème-ci, il y aura aussi dimanche, fin d'après-midi, ou début de soirée, je crois que c'est vers 20h, le documentaire de François Ruffin, qui a suivi justement les Gilets jaunes en France, Je veux du soleil. Voilà, ouais. Donc le manquez pas. Et alors, il y a un spectacle qu'on a essayé de faire venir, mais qui n'a pas pu venir, qui s'appelle Combat de pauvres. C'est la compagnie Arrête ça, vous pouvez chercher sur Internet, et qui est aussi très fort sur cette question de la pauvreté, qui amène aussi beaucoup de chiffres. Donc dans ce débat-ci, on n'a pas amené des chiffres et des statistiques, mais allez regarder le spectacle s'il passe près de chez vous dans votre asso, Combat de pauvres. Et alors moi, j'ai voulu vous dire que je m'appelle Thomas et là, c'est le petit logo. J'ai aussi une asso qui s'appelle le Musée du Capitalisme. Et donc, on a un stand dans le village. Et le Musée du Capitalisme est itinérant en Belgique. C'est expliquer ce qu'est le capitalisme, essayer de le déconstruire. Et donc, on sera à la Bourse de Bruxelles du 15 août au 13 septembre. Donc, vous pouvez aller voir ça au village ou sur Internet. Merci d'être venu passer une heure avec nous et bonne suite de festival à toutes et tous.